Bonsoir, bienvenue dans cette quatrième saison de ces conférences sur l'architecture, de ce cours sur l'architecture. J'ai pris cette année une direction différente des derniers cours qui étaient, comme, si vous vous en souvenez, thématiques, centrées sur des grandes questions, l'américanisme, sur des traversées de scènes nationales comme la France ou sur des grandes questions synchronique ou presque synchronique comme l'architecture de la France de Vichy. Donc j'ai choisi de m'intéresser à l'œuvre de Frank Gehry, considérée dans tout son déploiement depuis les années 50, assez méconnue, jusqu'à ce jour. Donc je viendrai lentement, séance par séance, puisque cette année, 9 séances m'ont été octroyées, jusqu'à l'actualité de l'œuvre de Frank Gehry. Je voudrais commencer par une image, une photographie que j'ai prise, comme beaucoup de celles que vous verrez, pas mal de celles que vous verrez, à Santa Monica en 97, plutôt à Venise, à côté de Santa Monica, une publicité d'Apple sur un bâtiment construit par Frank Gehry pour l'agence Chat & Day, qui venait de lancer une mémorable campagne pour Apple, avec le slogan « Think different », « Pensez autrement », et la caution de tous les personnages que vous devinez sur à la droite de l'image. Parmi ces personnages, imprimés numériquement en très grand sur un bâtiment qu'il avait conçu, se trouvait Frank Gehry. Ce qui n'avait rien d'étonnant, puisque déjà, donc il y a une vingtaine d'années, on pouvait considérer que Gehry avait sa place dans cette sorte de Parnasse de l'invention, de l'imagination scientifique ou artistique. En effet, et c'est pour ça que je pense, mais cela a-t-il besoin d'être justifié, c'est pour ça que je pense qu'il mérite qu'on s'attarde comme on peut, l'on fait jusqu'à ce jour, ou en tout cas peu récemment, sur son œuvre, car peu d'architectes comme lui ont en quelque sorte redéfini le champ de la discipline, dans ses formes, en inventant des formes qui lui appartiennent, qui ont été copiées, mais qui sont tout à fait originales, et ce, depuis déjà longtemps, en redéfinissant les procédures du projet architectural, puisque Gehry, qui était déjà extraordinairement inventif dans ses dessins, comme on le verra, était certainement le premier professionnel d'envergure à embrasser l'ordinateur, non pas pour faire des images, mais véritablement pour faire, plutôt pour développer et pour construire des projets d'édifices. Enfin, je crois que Gehry a redéfini aussi certains types de bâtiments. Son apport n'a pas été qu'esthétique, loin de là, certains types de bâtiments, je pense au musée, aujourd'hui à l'immeuble de bureau, à l'habitation. Et ce faisant, il a aussi redéfini notre conception de la ville et de l'espace urbain. Le cours que je vais donner ici, donc pendant ces quelques 9 semaines, est issu de plusieurs expériences. La première, et il faut l'avouer, cela ne vous échappera pas au fil des semaines, l'excellente connaissance que j'ai du travail de Gehry et de l'homme lui-même, puisque je le fréquente depuis exactement l'été 1981. Je l'avais rencontré lors de mon premier voyage à Los Angeles, où des amis de New York m'avaient suggéré d'aller voir ce type inconnu qui faisait d'étranges choses et qui était extrêmement sympathique. J'avais donc très rapidement, justement, sympathisé avec Gehry, qui occupait à l'époque, depuis peu, la maison de Santa Monica, dont on peut considérer qu'elle l'a vraiment fondée, qu'elle l'a fait comme architecte, maison que l'on verra à son tour. Donc, longue connaissance de l'œuvre de Frank Gehry, d'une part, d'autre part, un projet dans lequel je suis engagé, dont je ne vous parlerai pas dans le détail, un projet presque titanesque qui consiste à rédiger et publier 8 volumes de 500 pages qui constitueront l'œuvre complète de Frank Gehry, notamment vue au travers de ses croquis, au travers de ses dessins. J'ai eu accès pour préparer cette publication produite par la maison d'édition Cahiers d'Art à ses dessins. Je continue régulièrement à m'y plonger et donc vous aurez l'occasion de voir au travers de ces croquis d'études et au travers des maquettes expérimentales, des maquettes d'études aussi, le développement de ces idées et leur matérialisation sur le papier et ensuite dans la construction. Donc je crois que de ce point de vue, il est peu d'architectes contemporains. Je ne tiens pas à justifier à tout prix cette entreprise qui, encore une fois, se justifie toute seule, mais facilement. Mais je crois qu'il y a peu d'architectes contemporains dont le travail peut être aussi précisément renseigné, documenté, car l'œuvre de Guéry, qui est celle d'une entreprise d'architecture, qui est celle d'une société, d'une compagnie, même de plusieurs compagnies, reste avant tout une œuvre extrêmement individuelle, conduite par la main même de cet architecte. Alors, un bref aperçu du déploiement de ce cours. Aujourd'hui, je vous parlerai de ses premières, d'abord de sa formation à Los Angeles, de ses aventures parisiennes, de son retour à Los Angeles, qui n'était pas sa ville natale, et de ses tout premiers projets qui remontent à son association initiale avec Gregory Walsh, tel cet immeuble d'habitation de Santa Monica que l'on a du mal aujourd'hui à attribuer à Guéry et qui a une histoire tout à fait intéressante que j'évoquerai. J'entrerai en effet dans le détail de l'histoire de ces projets. Je crois qu'il est intéressant non pas de les considérer simplement dans leur aboutissement, mais aussi dans leur développement et parfois dans les formes de commandes. Je m'en expliquerai. Puis je m'arrêterai assez longuement à la relation entre Guéry et les artistes de Los Angeles, qui est une relation extrêmement complexe et féconde, qui le voit d'une part fréquenter les artistes, d'autre part construire des édifices pour eux, des ateliers, des résidences, et enfin, par ailleurs, élaborer des scénographies d'exposition pour ces artistes, comme celle que vous voyez à droite, et qui a été une œuvre extrêmement importante, on peut dire même un pivot dans son travail en 1965 dans le tout nouveau musée d'art du comté de Los Angeles, le LACMA, l'exposition Billy Al Bankston, dans laquelle, pour la première fois, il a utilisé des matériaux bruts de récupération, des matériaux bon marché. C'est dans le cadre des galeries d'un musée qu'il a fait et pas sur le terrain. On verra pourquoi. Enfin, je m'arrêterai sur cette question des artistes. J'y reviendrai d'ailleurs brièvement tout à l'heure, car on peut trouver dans l'œuvre de beaucoup d'artistes, et pas seulement ceux avec lesquels il a collaboré, des sources extrêmement précises pour certaines de ses inventions architecturales. Je m'arrêterai sur le pivot dans l'œuvre de Guéry qui constitue à la fin des années 70 la réalisation simultanée de sa maison, de sa surprenante maison à Santa Monica, qui n'est pas qu'une maison, qui est une espèce d'extension invasive d'une maison existante et qui, à l'époque, a fait image très fortement, bien au-delà de Los Angeles et des États-Unis. Et je mettrai en rapport avec cette maison son projet commercial, qui est le dernier de tous ceux qu'il aura entrepris pour un des promoteurs américains les plus importants, Jim Rouse, le Santa Monica Place, qui était une vision complètement nouvelle de l'architecture des centres commerciaux que Guéry connaissait bien, on va le voir. J'essayerai ensuite de mesurer l'ampleur, la largeur des interventions de Guéry dans les années 80, 70-80, notamment son travail plus intime et plus proche du design en matière de mobilier, la série de ses meubles en carton, qui est extrêmement intéressante, mais qui est une sorte d'échec professionnel presque volontaire pour lui. Et d'un autre côté, l'intérêt de Guéry pour les compositions urbaines. Vous voyez à droite notamment ce campus de l'école de droit Loyola à Los Angeles, qui correspond au moment où Guéry est très contaminé par le postmoderne qui a fait irruption lors de la Biennale de Venise de 1980. On y trouve des traces d'Allo Rossi, des échos historicistes, dans un projet qui est un des plus intéressants de cette phase-là. Guéry, ensuite, va voir ses méthodes de projet transformées par l'utilisation de l'ordinateur. Très précoce et très radical, et ceci se joue notamment dans deux projets qui méritent qu'on s'y arrête longuement. Le premier est la salle de concert Walt Disney, un projet qui va l'occuper pendant extrêmement longtemps. Vous le voyez ici. Vous voyez ici le premier projet qui était un projet en revêtu de pierre, et la maison Lewis, autre projet qui ne sera pas réalisé, mais qui sera pour lui une espèce de laboratoire de toutes les techniques de l'informatique. Gary rencontre les musées, et je parlerai longuement de ce thème des musées, des expositions et des musées dans son œuvre. Et en concluant d'ailleurs ce cours, au-delà des 9 séances dont je parle aujourd'hui, par un colloque le 19 juin, consacré à l'architecture du musée aujourd'hui, auquel je ne désespère pas de faire apparaître Gary pour une soirée évidemment assez spéciale, mais ce n'est pas encore confirmé. Gary et le gratte-ciel. Gary s'est posé le problème du gratte-ciel depuis très longtemps, depuis le début des années 90, et l'a abordé avec des projets tout à fait extraordinaires, peu encore réalisés, comme celui-ci, le 8 Spruce Street à New York, mais beaucoup dans les cartons dont je parlerai. Enfin, je m'arrêterai sur les derniers projets. Enfin, oui, je parlerai des projets qui bouleversent les types acceptés. Par exemple, ce bâtiment, ce centre de recherche pour MIT qui a été élaboré non pas simplement comme une sorte de chiffonnage de papier métallique, comme on pourrait le croire à première vue, mais qui résulte d'un travail extrêmement étroit avec les scientifiques du MIT. J'en ai pu avoir la preuve en le visitant en longueur avec le chef de projet du côté des chercheurs. Et en bas, la toute récente salle de concert Pierre Boulez, inaugurée le 4 mars de cette année à Berlin, qui est un bâtiment magnifique quant à son acoustique et qui n'a rien, quant à lui, vous le voyez, de l'esthétique du chiffonnage que l'on voit en haut. Alors, la toute dernière séance sera consacrée à certains échos extrêmement intéressants du travail de Gary. Vous voyez ici les lieux de son exercice, le grand hangar fermé, complètement opaque de Venise, où se trouve son agence depuis une vingtaine d'années. Gigantesque atelier dans lequel la production des projets s'organise de manière flexible, par équipe qui se déploie de table en table, sous l'œil du maître qui les domine depuis son balcon. Il me semble particulièrement intéressant aujourd'hui, et j'y reviendrai, que ce soit précisément cette agence qui est servie de modèle pour le siège, en tout cas un des bâtiments, le principal bâtiment du siège social de Facebook dans la Silicon Valley, et que ce soit aujourd'hui pour certains entrepreneurs et pas des moins inventifs, l'atelier d'architecture qui devienne le modèle, alors que pendant longtemps, et je répéterai ce point évidemment parce qu'il est assez frappant, pendant longtemps, ce fut le contraire, à savoir que l'idéal de l'agence d'architecture moderne était l'atelier, était l'usine. Alors, quelques thèmes vont traverser ces conférences. En effet, j'aurais pu construire le cours de mille manières. Nous avons affaire à un corpus d'environ 350 projets. Hein, 350 projets. Les croquis que je vais présenter dans ces 8 volumes d'œuvres complètes, c'est de l'ordre de 10 à 15 000 dessins. Il aurait été possible de présenter une histoire linéaire, projet après projet, et c'est largement ce que je vais faire, mais les choses sont complexes car les projets se recouvrent dans le temps parfois. Ainsi, le projet pour Walt Disney, qui dure de 88 à 2003, change en étant transformé par les projets contemporains, par les projets qui apparaissent et se déploient au même moment. J'aurais pu vous proposer une vision typologique. les musées, les maisons, les centres commerciaux, qui n'auraient pas permis de comprendre là aussi comment chaque projet, comment une maison pouvait, l'idée d'une maison pouvait déboucher sur une autre forme de musée, comment finalement beaucoup de musées se ressentaient dans leur spatialité d'idées qui étaient nées dans l'architecture des commerces. J'aurais pu faire aussi une analyse topographique, car Guéric, l'on présente comme quelqu'un qui invente des choses hors de tout contexte, est un architecte qui est extrêmement rigoureux dans son approche des réalités urbaines et des paysages. On le voit dans les très vastes maquettes dans lesquelles il situe les projets les plus petits. La topographie eut aussi été illusoire, car à côté de cet enracinement, qui est la règle, beaucoup de formes sont aussi des formes nomades et en translation d'un site à un autre. Alors, il y a des analyses récentes dont je ne ferai pas sur lesquelles je ne gloserai pas, mais qu'il est de ma responsabilité scientifique, entre guillemets, d'évoquer. Je pense par exemple à l'analyse proposée par Aurélien Lemonnier et Frédéric Miguerou dans le catalogue de l'exposition du Centre Pompidou en 2015, qui est une analyse éclairante à laquelle je vous renvoie. C'est lisible, c'est en français, ça se trouve. Miguerou et Lemonnier distinguaient 6 cycles successifs dans l'œuvre de Guéric, qui était fort efficace car il permettait de définir 6 galeries au Centre Pompidou. Je les rappelle pour mémoire, c'était l'élémentarisation et la segmentation des débuts, l'assemblage, la fusion, le conflit, la continuité et la singularité couplée avec l'unité. En fait, c'était des coupes contradictoires qui étaient éclairants, notamment dans les galeries du Centre. Mais cette approche avait une limite que vous comprendrez facilement. Quand on parle de segmentation, d'assemblage, d'interaction ou de conflit, c'est essentiellement dans le cadre d'une approche, je dirais, compositionnelle, de la composition des formes, ou une approche de leur syntaxe. Et j'utilise à dessein un modèle linguistique dont je n'ignore pas les biais. Et donc cette approche syntactique laisse de côté les enjeux lexicaux, ce qui est le plus passionnant parfois du travail de Gehry, qui pratique aussi, et c'est là que les choses se compliquent, la mise en cause qui subvertit le rapport rigide entre la syntaxe, la composition, pour utiliser des termes un peu peut-être vieillis de l'architecture, et le lexique. Donc, ces quelques 60 années de travail, je les parcourrai en m'intéressant plutôt à des conjonctures consécutives, bien que les contaminations entre les cycles de projets abondent. Chaque projet peut en effet être saisi longitudinalement, diachroniquement. La maison Lewis peut être saisie dans la série des maisons depuis les années 60, mais la maison Lewis peut aussi être saisie synchroniquement dans la série des projets qui s'élaborent au même moment dans l'agence de Guéry et qui peuvent être des musées ou des salles de concert. Ainsi, je reviens à Disney, Bilbao a été commencé après Disney et fini avant Disney, mais il a eu un rôle très important sur le développement de Disney. Donc quelques enjeux avant de retrouver Guéry dans son milieu d'origine à Los Angeles. Quelques enjeux. Le premier, vous le voyez ici, c'est le rapport avec les artistes. Guéry s'intéresse à l'art, il en a une excellente connaissance, et il est assez facile parfois, surtout qu'il est parfois explicite sur la question, de saisir les liens qui relient par exemple cette composition de Malevich avec le plan, les formes rectangulaire ou linéaire et presque le codage de couleurs de cette maison dont on voit la maquette à Santa Monica. Guéry a d'ailleurs réalisé la scénographie d'une mémorable exposition sur le constructivisme à Los Angeles, mais c'était en 1980, un peu plus tard. Donc je m'arrêterai sur ce rapport avec le constructivisme. Autre exemple qui est extrêmement évident, vous voyez, regardez cette composition, ce torchon fourré entre une assiette et un compotier dans cette nature morte de Morandi, et ce drapé coincé entre deux pièces de la maison Lewis que Guéry étudiait à Cleveland. Là encore, les choses peuvent être documentées. Guéry m'a confirmé qu'il avait vu dans les années 80, une exposition de Morandi à San Francisco qui l'avait frappé. Donc il n'y a rien d'innocent et de fortuit dans cette question. Guéry et les artistes, c'est aussi Guéry et la rencontre des artistes. Il y a eu plusieurs rencontres au total traumatiques avec Richard Serra, et ils se détestent cordialement aujourd'hui, mais la rencontre avec Klaas Oldenburg a été extrêmement féconde. Oldenburg, qu'il avait connu dans les années 70, et qui a été à l'origine de ce bâtiment de Los Angeles où les jumelles géantes, font partie de la série des objets géants d'Oldenburg, a une authentique fonction, comme on le verra. Guéry et la forme urbaine. Je le répète, on a l'image banale de Guéry et celle de quelqu'un qui ne s'intéresse qui est un architecte narcissique et qui ne s'intéresse pas à ce qui l'entoure. Les choses sont beaucoup plus complexes. Il est attentif, pour des raisons liées à sa formation dont je parlerai, il est attentif à l'inscription urbaine des édifices, mais il est aussi attentif à l'utilisation de thématiques urbaines dans certains de ces édifices, comme ce centre commercial, aujourd'hui assez amoché, sinon complètement détruit, à Santa Monica, dans lequel l'idée de la galerie couverte, l'idée de la rue, l'utilisation des plazas d'entrée en liaison avec les autres éléments du centre, on joue un rôle important. On sait aussi que Bilbao, je ne remontre pas ici, qu'il est à l'origine du choix du terrain de Bilbao, parce qu'il avait le pressentiment qu'il fallait édifier un édifice très fort sur les rives du fleuve et non pas à l'intérieur du damier de la ville. Et en bas, nous verrons comment certains de ces projets, je pense à ce centre commercial de Santa Monica, se ressentent de sa connaissance assez bonne de l'histoire de l'urbanisme, en particulier des compositions pittoresques de Camille Lozit. Alors, le processus de projet, c'est là-dessus que je parlerai le plus précisément. Comment peut-on le saisir? Eh bien, avant tout, et je n'en montrerai pas aujourd'hui beaucoup, avant tout par les croquis. Donc, Guéry est un dessinateur forcené qui a énormément travaillé, mis au point ses dessins par des croquis. Ici, c'est un croquis d'un des premiers projets dans lesquels la fragmentation des éléments du programme apparaît. C'est un projet pour le Jung Institute de Los Angeles. Très peu de croquis, mais celui-ci est absolument décisif. Guéry est aussi un expérimentateur, notamment avec les maquettes. Ici, une planche qui est tout à fait séduisante des différentes solutions de plans pour la salle de concert Walt Disney à Los Angeles, qui a notamment une source évidente et que l'on voit dans certaines de ses hypothèses de maquettes dans la philharmonie de Hans Scharoun à Berlin. Donc une mise au point par croquis, par maquette, et notamment des maquettes qui ne sont pas des maquettes de présentation, qui ne sont pas des maquettes qui rendent compte d'un processus fini, sauf peut-être au début. Au début, les maquettes apparaissent assez lentement, mais à partir des années 90, et sans doute du projet pour Bilbao, qui est largement développé en maquette, ici je donne l'exemple de la Fondation Vuitton à Paris, le travail en maquette, un travail progressif qui montre comment Guéry est attentif, ne part pas d'une forme a priori, comme le font certains des architectes de sa génération, je ne donnerai pas de nom, mais part d'une transcription très rigoureuse du programme en volume qui permet d'en étudier les continuités, les échelles, les orientations, et qui ensuite finit par être la base autour de laquelle s'élabore une forme plus complexe et plus sculpturale. Et enfin, une fois que cette forme est élaborée, même s'il y a certains allers-retours entre les formes analogues ou les formes matérielles et les formes numériques, évidemment, le passage au numérique permet de construire ces formes complexes. Il ne sert pas à les représenter, il permet de les construire, de les évaluer, de les modifier au fil du temps. Autre aspect important, c'est celui des techniques. Donc je reviendrai sur les techniques auxquels Guéry s'ajuste et qu'il utilise. son œuvre initiale est directement liée à l'expérience du balloon frame, de l'ossature légère en bois avec laquelle tout l'Ouest américain a été construit depuis que la production industrielle des clous et les scies mécaniques ont été inventées, c'est-à-dire depuis le début ou la moitié du 19e siècle. Tout l'Ouest américain a été fait avec ce système qui donne une très grande liberté quand on sait l'utiliser. En haut, Gary, sur le chantier de la maison Davis avec l'artiste et le artiste slash client, qui est un des premiers exemples avec lesquels il prend sa liberté vis-à-vis de ses techniques. Enfin, en dessous, un projet qui n'a rien à voir, qui est un concours perdu pour le musée de Pékin et qui est un projet très important dans l'utilisation, cette fois-ci, du verre comme matériau structurel. Donc Gary, à la fois capable de transfigurer des techniques assez, je dirais, archaïques ou assez traditionnelles, et dans le même temps, tout à fait au travers de son équipe, encore une fois, menant la veille très précisément sur l'usage des techniques, les plus avancées. Gary et les clients, il n'y a pas d'architecture sans commande. Et dans le cas de Gary, on verra comment les milieux, ces milieux de clientèle se constituent à Los Angeles et ailleurs. Gary est un architecte qui est extrêmement affectif dans ses rapports avec les clients, extrêmement attentif. Et on verra comment ses clients se chaînent en groupes particuliers. Par exemple, Weissman en haut, qui était un homme d'affaires et qui lui a confié beaucoup de projets, était lié à un autre collectionneur de Los Angeles, Norton Simon, qui a eu aussi un rôle important dans une espèce de groupe de capitalistes et de collectionneurs juifs du West Side de New York. À gauche, en bas, est Eli Broad, qui est le principal mécène de l'architecture. Angelina, avec qui les rapports ont été en revanche beaucoup plus électriques, et notamment jusqu'à un projet de maison qui a été abandonné, qui a laissé beaucoup d'amertume, en tout cas du côté de Gary. Et à droite, on voit Gary et Fleischmann, qui était le directeur de l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, avec qui Gary a une relation extrêmement longue. Donc ses clients, ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des utilisateurs avec lesquels le rapport est fécond. Enfin, dernier thème, c'est celui du rapport de Gary et des médias. Gary est un homme qui, depuis, ce n'est pas pour rien qu'il opère à Los Angeles, qui n'est pas simplement une ville du cinéma comme production, mais qui est aussi une ville où le cinéma se met en scène, une ville où les celebrities, où la notoriété publique joue un rôle important. Donc Gary a été attentif, quoi qu'il en dise, parce qu'il est un peu discret là-dessus, ou un peu faux, il exprime une certaine fausse modestie parfois, mais Gary a été extrêmement attentif à son image publique, bien que ce soit un grand muet. Le Corbusier a écrit 75 livres, Miss a peut-être écrit 40 textes, Gary a dû écrire 5 textes dans sa vie. C'était un grand épistolier, on trouve pas mal de lettres, notamment dans les débuts, mais très peu de textes. Ceux-là et celui que vous voyez à gauche dans le magazine Designers West en 69, mais il y en a très peu d'autres. En revanche, c'est un grand causeur, et donc le corpus permettant de rendre compte de ses projets, de comprendre la commande, de comprendre les sauts, les transitions, les à-coups dans ses projets, c'est un corpus d'entretien. Présence dans la presse nationale américaine très, très précoce, ici une de ses premières couvertures du Los Angeles Times Magazine, présence aussi dans les formes les plus populaires de communication, avec cet épisode des Simpsons légendaires qui le met en scène transformant une feuille de papier chiffonnée trouvée dans sa corbeille en un bâtiment. Je ne vous projetterai pas de cette scène du film de Sidney Pollack sorti il y a une douzaine d'années, que vous pouvez trouver sur tous les sites. Et je vous inviterai, parce que je n'entrerai pas dans tous les détails de la biographie des amours, des haines et des amitiés de Frank Gehry, je vous invite aussi à lire l'ouvrage de Paul Goldberger, qui n'est pas une histoire de l'architecture de Gehry. En dépit de son titre, c'est bien plus une biographie puisée aux meilleures sources, vérifiée, écrite selon les règles de ce genre de biographie que les Américains adorent. Je ne le paraphraserai pas dans mon propos. Alors, mon propos, il commence au début. Gehry, né Frank Goldberg, est né à Toronto, au Canada, en 1929. Il a donc 88 ans aujourd'hui, dans une famille juive d'une métropole qui était en train de se transformer démographiquement. Hemingway a eu cette phrase célèbre sur Toronto en disant que c'était une ville d'église. Et vous voyez, avec la vue du haut, que c'était aussi une ville d'entrepôts, de voies ferrées, de magasins. Et c'est donc une ville de commerce, une ville où les Juifs ont commencé à venir d'Europe centrale au début du XXe siècle. Ils comptaient 7%, ils formaient 7% de la population quand Gehry est né à Toronto. Ses parents étaient, pour son père Irving Goldberg, immigrés de la deuxième génération, fils d'un tailleur de New York, petit homme d'affaires, petit entrepreneur allant d'un succès en échec. Donc absolument pas un modèle extraordinaire pour son fils. Sa mère, Sally Kaplansky, née à Łódź, en Pologne, était, ou plutôt à l'époque dans l'Empire des Tsars, était arrivée au Canada à l'âge de 8 ans, et elle, en revanche, elle sera active plutôt dans le commerce, allant de magasin en magasin, devenant chef de rayon, notamment plus tard à Los Angeles. Donc j'entre pas dans toute l'histoire détaillée de la famille Goldberg. Encore une fois, vous pouvez trouver cela dans le livre de Goldberger. Je dirais simplement que très rapidement, Gehry, qui était un adolescent assez curieux, assez entreprenant, a abandonné la religion, même s'il est resté attentif et s'il a gardé de l'affection pour certaines traditions, comme celle de la carpe de la Pâque juive, sur laquelle je reviendrai. Il y a beaucoup de poissons dans la vie de Gehry, ou comme s'il raconte, mais peut-être un peu sur le modèle de... un peu trop sur le modèle de Frank Lloyd Wright, comment les blocs en bois que lui donnait sa grand-mère, au fond, fait germer en lui l'idée de faire de l'architecture. La santé du père de Frank était mauvaise, et donc ils arrivent au moment de la fin de la guerre à Los Angeles. Et c'est en fait à Los Angeles que Gehry se forme. C'est là qu'il ira à l'université, qu'il commencera à travailler. Qu'est-ce que c'est que Los Angeles en 1945 ? C'est une ville qui explose, notamment à cause de l'industrie aéronautique, les chantiers navals qui s'y sont développés pendant la guerre. La ville a multiplié sa population. C'est une ville où apparaissent les premières autoroutes urbaines, vous les voyez en bas, les ensembles d'habitations financés avec le GI Right of Bills pour les anciens combattants. C'est une ville en plein essor, extrêmement optimiste. C'est une ville dont la structure change et aussi dont la démographie change. Gehry retrouve à Los Angeles beaucoup d'amis et de cousins venus de Toronto. La ville absorbe une immigration nouvelle. C'est une ville dans laquelle des couches professionnelles comme les ingénieurs aéronautiques jouent un rôle important. Ce seront les ingénieurs qui seront par exemple les clients des maisons étonnantes de John Lautner, dont je dirai un mot tout à l'heure. Et surtout, en contrepoids avec les classes dominantes qui régnaient et qui gouvernaient downtown, le centre, apparaît une bourgeoisie juive cultivée qui va prendre en main la politique artistique, qui va prendre en main les musées, qui va prendre en main les galeries et qui va surtout développer le West Side. Donc la vie de Gehry, elle va, qui commence à habiter près du centre, qui va aller à l'université, à University of Southern California, qui est là, va se déplacer vers l'ouest où seront ces groupes sociaux qui seront ses premiers clients. Gehry commence dans la vie de façon extrêmement modeste. Il fait des livraisons en camion. il serait peut-être chauffeur d'Uber aujourd'hui. Et il va au college, donc il fait ses premières années de l'université à University of Southern California, qui était la seule université à avoir une école d'architecture à l'époque à Los Angeles. UCLA n'aura d'école d'architecture qu'en 1956. Et là, il tombe dans la glaise. Après avoir été au City College, donc à l'université municipale de Los Angeles, il dessine très bien, il est envoyé à Los Angeles et il rencontre un céramiste du nom de Glenn Lukens avec qui il va commencer à travailler. Et vous voyez en bas quelques céramiques de Lukens, qui est un artiste qui s'intéresse beaucoup à l'émail et qui va notamment produire de très belles céramiques émaillées qui sont très, très appréciées aujourd'hui. Lukens détecte les talents plastiques de l'habileté manuelle de Gary et l'envoie voir des architectes, notamment Raphaël Soriano, qui était un ancien dessinateur de Richard Neutra. Il rencontre aussi des étudiants en architecture qui lui montrent les bâtiments des architectes modernes. Je vais en dire quelques mots à Neutra, notamment un Canadien, Arnold Schreier, qui est un Canadien de Montréal, avec qui il visite cette espèce de musée de l'architecture moderne en plein air qui est Los Angeles. Schreier lui présente, par exemple, Julius Shulman, photographe d'architecture dont je parlerai, et l'emmène voir Schindler et Neutra. Donc à partir de 1949, Gary va s'engager à plein temps dans le programme d'architecture. Et entre le programme d'architecture et ses visites, il va se familiariser avec l'architecture de Los Angeles. Quelques figures ici qui sont importantes, très importantes, à un titre ou à un autre. Calvin Straub, architecte complètement inconnu sous ses latitudes, qui est, on peut le dire, vous voyez ici avec cette maison un peu tardive par rapport à mon propos, mais Straub est un architecte moderne, élégant, fortement intéressé par le Japon, et qui va inventer un langage pour l'architecture domestique fait d'éléments de poteaux et de poutres visibles en bois et de remplissage, dont cette maison donne un très bon exemple. Donc Straub va être un des enseignants de projet de Gary. Gary, c'est le nom qu'il choisit au début des années 50, sous la pression de sa femme Anita Snyder et de quelques amis. En effet, il y a, même si j'ai parlé de l'expansion de la communauté juive à Los Angeles, l'antisémitisme est latent. Et il est clair qu'un architecte qui a un nom aussi évidemment juif que Goldberg a un handicap professionnel, surtout qu'au même moment, une des premières séries de télé américaines s'appelle les Goldberg. Donc tout le monde capte bien les origines de Gary, qui va s'inventer ce nom, qui a des connotations plutôt irlandaises, surtout quand il lui ajoute l'initiale de son second prénom, Owen, Frank O'Gary. Ça a presque l'air irlandais. Donc Gary change de nom, tout en découvrant ces architectes qui étaient dans la mouvance de Neutra. Je pense ici à Gregory Hayne, qui était un des rares architectes de Los Angeles à avoir élaboré des formes d'habitation collective. Doinsmer en haut, cet ensemble de Mar Vista en bas, qui est un exemple remarquable d'ensemble d'habitation horizontale avec un paysage élaboré par Garrett Egbo, qui est le principal l'enseignant le plus marquant peut-être pour Gary à USC. Egbo est un paysagiste qui publie en 50 ce livre Landscape for Living, qui a travaillé, vous le voyez en bas, pour le New Deal de Roosevelt. Egbo est un personnage extrêmement intéressant et important pour Gary. C'est aussi un radical. Gary raconte, et il me l'a raconté à nouveau il y a quelques jours, qu'un jour Egbo a arrêté son atelier pour parler de l'exécution des Rosenberg, qu'il y avait un agent du FBI dans la salle et qu'il a eu beaucoup de problèmes. Gary était engagé avec lui dans une série d'organisations informelles de la gauche pro-communiste américaine, notamment un groupe qui s'appelait The Architecture Panel. Et le rôle d'Egbo est très important. Egbo va plus tard faire travailler Gary sur certains de ses projets, et en tout cas, il le prend comme assistant à l'université. Les autres figures qui font partie de ce que j'appellerais le bain architectural dans lequel se trouve Gary, ce ne sont pas les architectes. J'ai toujours critiqué les histoires d'architecture qui ne s'arrêtent que sur la formation que reçoivent les architectes dans les écoles. Ce n'est qu'une partie de la vérité. Le bain architectural, les choses que l'on voit, que l'on va visiter, dont on entend parler, sont aussi importantes. L'architecture étonnante de John Lautner, qui était un élève de Wright, ce sont des chantiers que Gary va voir. Schindler, Gary connaît Schindler de très près, il va travailler avec lui, il ne va pas travailler avec lui, mais il va voir ses chantiers. Il le fréquente, il raconte beaucoup d'anecdotes sur lui. Neutra, évidemment, qui est la grande figure de l'architecture moderne de Los Angeles dans cette période. Gary va lui montrer ses dessins, il dessinait très bien, très belle perspective. Neutra lui dit « C'est bien, vous pourriez travailler ici ». Gary le rappelle le lendemain en lui disant « Monsieur Neutra, j'ai oublié de vous demander, j'ai oublié de vous parler d'argent ». Et Neutra lui a dit « Ah oui, excusez-moi, je ne sais pas encore combien je vais vous demander pour travailler chez moi ». Donc, résultat, Gary ne va pas travailler chez Neutra, mais plutôt, comme on va le voir, chez Victor Groen. Mais il observe Neutra, il observe aussi évidemment les maisons, ce programme expérimental des Case Study Houses, une précoce à gauche, c'est la maison des Imses à Pacific Palisades. À droite, c'est la maison Stahl de Pierre Koenig. Ce sont des maisons qui sont présentes dans les revues, que tout le monde va voir. Donc, elles font partie, de l'horizon visuel de Gary. Son tout premier projet, le voici, il n'est pas très connu, grâce à Shulman, que vous voyez en haut. Gary raconte comment Shulman allait, avec Neutra, photographier les maisons de ce dernier, comment Neutra cadrait la caméra, mettait un petit rameau de feuilles pour cadrer la photo. En tout cas, au travers de Shulman, Gary connaît Julius Rom, qui est son beau-frère, et fait un premier projet pour lui, qui est, vous voyez, un bungalow, qui est intéressant par son... qui aurait été creusé dans un terrain en pente. Vous voyez l'organisation du plan en L avec une piscine et surtout un toit très bas et des pergolas, déjà un air assez japonisant. Alors, on ne connaît pas grand-chose. Un petit air Wrightien aussi, je vais revenir là-dessus. On ne connaît pas grand-chose de ce projet. Apparemment, Gary, qui était bien jeune, ne fut pas pris au sérieux par ce client et le projet fut réalisé sans lui. Projet suivant. Gary va à l'armée. À l'époque, il y avait un service militaire obligatoire. Il se retrouve sergent à l'armée et vous le voyez ici, dans les pages d'un quotidien de province. Vous le voyez ici devant, voici Gary, devant la maquette d'un projet qu'il réalise pour les militaires en 1956. En fait, il s'agit de plusieurs projets pour lesquels il travaille avec deux autres appelés qui ont un background aussi en matière de design. Il reste exactement deux photos dans les archives de ce travail. La première, c'est ce dessin de Gary, qui est un projet de club dans lequel vous voyez à nouveau j'y insisterai lourdement, cette présence de l'architecture japonaise dans ce toit ouvert, ce porche, l'idée donc de transfigurer une caserne pour en faire un club militaire. Le projet réalisé, on en a une image. Gary ne sait plus très bien si c'est le seul exemplaire de cette day room, qui était une sorte de salle de séjour où les soldats pouvaient passer du temps entre les exercices. Voilà la seule photo qui en reste et qui nous montre donc un intérieur assez remarquable avec ses murs blancs un peu cassés, ses ossatures apparentes de bois et surtout ses écrans à claire-voie et surtout ce relatif raffinement des éclairages éclairage direct mais intégré dans la poutre ici, éclairage indirect. Il est clair que les sources de ce travail sont doubles. D'une part, le Japon. La génération de Guéry est fascinée par le Japon et certains de ses camarades y vont pendant leur service militaire. Vous voyez en haut une vue de la villa de Katsura, qui était évidemment un des modèles les plus populaires. Et en bas, la Robbie House de Wright à Chicago, dans laquelle on retrouve cette structure, cette relation entre le bois apparent et vernis et les remplissages blancs, dans laquelle on retrouve cette intégration des luminaires. Tout ça n'est pas le fruit du hasard. Évidemment, Wright faisait partie de la culture générale de tous les architectes de cette époque, mais par ailleurs, Gary avait lu In the Nature of Materials, les principaux livres à leur existence sur Wright, avait été stagiaire dans une des maisons de Wright, propriété de la ville de Los Angeles, et avait vu à Los Angeles la grande exposition sur Wright qui était passée en 1952 ou 1953. À l'initiative de Egbo et de quelques autres de ses enseignants, Gary décide d'aller à Harvard étudier l'urban design, discipline qui était alors en plein développement. Donc étudier la composition urbaine, pourrait-on dire. Harvard est à l'époque dirigé par CERT. Gary s'aperçoit en arrivant à Harvard qu'il s'est trompé de programme et qu'il est inscrit en urban planning, ce qui le déçoit beaucoup, car c'était plutôt des chiffres que des formes qui étaient enseignées. Mais il se lie avec quelques-uns des enseignants, notamment Joseph Zaleski, qui est un des enseignants modernes rassemblés par CERT sur ce campus. Il y passe une brève période, puis retourne à Los Angeles. Encore une fois, il était d'une famille assez pauvre, il n'avait pas les moyens de continuer ses études plus longtemps. Il est très brièvement employé par William Pereira, qui avait une des grandes agences de Los Angeles, et qui notamment a construit ce bâtiment pour l'aéroport LAX, cet étrange bâtiment, cette étrange araignée de béton. Gary affirme avoir travaillé quelques temps dessus, mais surtout, il rencontre Victor Groen, qui va être la force décisive dans sa formation, dans son parcours professionnel. Victor Groen, que vous voyez à droite, est un architecte viennois. Il a dû quitter Vienne à la suite de l'arrivée des nazis. Il est arrivé à New York. C'était d'emblée un architecte de théâtre et un architecte commercial. À gauche, une boutique viennoise, à droite, un magasin construit à Seattle. Groen était un maître de la lumière, c'était un maître de la présentation de la marchandise, et ce sont des techniques qui vont être très utiles à Gary dans beaucoup de programmes, et pas simplement les programmes commerciaux. Chez Groen, il rencontre Rudy Baumfeld, un autre viennois, qui va être son mentor le plus direct dans l'agence. Il rencontre un ingénieur italien, Edgardo Contini, et beaucoup de jeunes gens. À l'époque, Groen est engagé dans la réalisation des grands centres commerciaux américains dont il est pratiquement l'inventeur. Donc Gary va, pendant plusieurs années, je suis en train d'essayer de rassembler la liste de tous ces projets, être une des grandes figures de l'agence de Groen. Et Groen, dont le travail va être extrêmement largement diffusé par ce livre de 1960, Shopping Towns USA, très répandu dans le monde, il n'a connu qu'une seule traduction, d'ailleurs une traduction russe dans les années 60, ce qui est une autre histoire. Un projet que Gary réalise avec Gregory Walsh pendant qu'il travaille chez Groen. Il travaille le soir à cette cabane qui est construite dans les forêts pas loin de Palm Springs. Vous voyez que c'est une maison très simple, en porte-à-faux sur le ravin. Géométrie très simple. Ce qui est intéressant, sans doute, c'est évidemment la charpente est apparente, c'est le début d'un travail sur les contrastes entre les éléments verticaux solides, la charpente. Déjà une certaine affection pour les positions acrobatiques des maisons, mais c'est un tout petit projet. Le projet important est celui sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant, c'est la première grande maison que Gary et Walsh réalisent. Alors, un mot sur Gary et Walsh. Voici un dessin. Il y a très peu de dessins sur cette maison, pas de croquis, de reproduction. Et là, je partage avec vous une des angoisses méthodologiques qui sont les miennes en faisant ce travail. Gary me dit « Ah oui, c'est un dessin de Greg ». Je vais voir Greg le lendemain qui me dit « Mais ça ne peut être qu'un dessin de Frank ». Donc, évidemment, le temps a passé depuis 61-62. Mais pourquoi les choses sont-elles si difficiles ? Parce que Gregory Walsh et Frank Gehry, qui étaient tous les deux à la fois compagnons d'agence chez Grun et compagnons d'école à USC, s'étaient formés à dessiner exactement de la même manière. Ce qui rend l'identification des dessins très difficile. En général, les trucs, certains le savent ici, c'est de voir comment les architectes dessinent les voitures, les personnages et les arbres. Mais ils sont très très proches l'un de l'autre aussi pour ces éléments des dessins. Donc les choses sont très difficiles. En tout cas, Greg et Gregory, qui sera associé de Frank pendant 30 ans, qui sera en quelque sorte, j'aurai l'occasion de revenir sur lui, mais j'utilise cette comparaison d'emblée, il sera une sorte de Pierre Jeanneret. De la même manière que Pierre Jeanneret, dans l'agence Le Corbusier, pendant 18 ans, a tenu les projets, les a développés, a fait travailler l'équipe pendant que Le Corbusier donnait des conférences dans les quatre coins du monde. Quand Gehry cherchait les commandes et lorsqu'il passait son temps avec les clients, avec les artistes, surtout d'ailleurs avec les clientes, c'est Greg qui mettait au point les projets, qui les développait. Et donc les dessins que je trouve sont souvent difficile à attribuer. Parfois, ce sont des dessins à quatre mains, ce sont les plus intéressants. Mais au fond, qu'importe. Au fond, l'œuvre complète de Le Corbusier et Jeanneret, elle est d'abord déterminée par les idées de Le Corbusier, plus que par celle de Pierre Jeanneret, mais sans lequel elle ne se serait pas réalisée. Alors, la maison Steves à Bel Air, c'est une maison qui est perchée en haut d'un ravin, sur une sorte de promontoire, qui, au-dessus de l'autoroute de San Diego, en face de ce qui est devenu aujourd'hui le Getty Center, vous voyez que c'est une maison, la voici, qui s'étend horizontalement à un seul niveau, donc comme le font beaucoup des maisons modernes de Los Angeles. C'est une maison qui a un plan cruciforme, vous la voyez ici, voilà le côté de l'accès, le garage, la partie centrale et le séjour en porte-à-faux sur la vallée. Le plan est intéressant, donc à nouveau, le garage, cette espèce de patio d'entrée, un den, une espèce de séjour à moitié enclos, puis la vue sur la vallée, l'aile des chambres avec ses généreuses annexes et l'aile de la cuisine. De ce côté-ci, donc un plan cruciforme avec un centre qui est déterminé par le foyer de la cheminée, qui n'est pas difficile de comparer à certains projets de Wright, encore une fois, que Gehry connaissait parfaitement. Gehry était fasciné par Wright. Il m'a dit qu'il avait eu trois fois l'occasion de le rencontrer, mais qu'il ne voulait pas lui serrer la main à cause de ses opinions politiques dans les États-Unis des années 50. C'est ainsi qu'il présente les choses. Mais je pense à cette maison Ward-Willis, où il est quand même tentant de voir un parallèle avec là aussi l'accès automobile, avec la partie centrale et le séjour. Évidemment, tout le reste est différent. Donc cette maison est importante. C'est une des rares maisons à propos desquelles on trouve une correspondance entre le client, en l'occurrence la cliente. Le client était un comptable. Ce projet était un projet que ce couple construisait après que les enfants soient partis, donc dans lequel il voulait avoir une maison pour recevoir after the kids have left, après que les enfants se soient envolés. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui, qu'on appellerait aujourd'hui des empty nesters, un nid vide. Et donc la cliente, lettre trouvée dans les archives, écrit « Notre principal but est de donner une impression spacieuse et une impression d'espace et de détente avec un sentiment de l'ouverture et d'avoir une bonne circulation entre le séjour, la salle à manger et le den. » et que toutes ces trois pièces deviennent une partie de la terrasse quand les portes coulissantes sont ouvertes. Voilà. Donc, un programme très précis. Gary le traite. Bon, vous voyez ici des vues du chantier, mais je voudrais surtout vous montrer les vues intérieures que Shulman a réalisées. Donc, en particulier la vue de la manière dont est perçu l'extérieur, le fameux den réalisé par un excellent menuisier avec qui Gary avait travaillé chez Grun. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'écrit Gary pour la présentation du projet en disant que contrairement à ce qu'on pourrait attendre de cette situation, un peu en tremplin au-dessus de la vallée, la vue panoramique, nous n'avons pas permis que la vue panoramique domine de façon excessive la vie des habitants. Donc ça n'est pas une maison, je dirais presque tremplin ou plongeoir, comme la case study house de Pierre Koenig que l'on a vue tout à l'heure. Plutôt, l'architecture s'est vue enjointe d'encadrer cette vue panoramique de façon à ce que différents fragments en soient vus depuis les différentes pièces. Donc il y a un sens très précis du paysage et du placement de la maison dans ce cadre. Donc la maison sera publiée assez rapidement. Et le Los Angeles Herald Examiner, qui est un des deux quotidiens de Los Angeles à l'époque, considérant, je cite, les hauteurs de plafond variables ajoutent du drame et de la pertinence aux différentes pièces dans lesquelles les vues deviennent une partie plaisante de chaque pièce et soulignent les qualités habitables de chacun d'entre eux. Alors, le drame ici, en fait, je pourrais y revenir plus longtemps, c'est pour moi un drame qui porte sur, ou une angoisse qui porte sur les sources utilisables par Gary, notamment ici Wright, mais aussi Schindler, certaines maisons de Schindler que je n'ai pas le temps de vous montrer, certaines maisons de Harris, H.H.H. Harris, qui est un architecte moderne de Los Angeles. Il y a une très très grande présence de toutes ces sources qui sont assemblées pour élaborer un propos tout à fait singulier. En 1961, Gary et sa famille décident qu'ils plafonnent professionnellement. Gary et Walsh n'ont eu qu'une seule commande, décident de venir à Paris, et c'est là-dessus que je voudrais le laisser aujourd'hui. Un moment très important dans la vie de Gary, ce sont les quelques mois qu'il passe à Paris en 60-61. Il travaille chez deux architectes, André Remondet, qui est un prix de Rome. Je crois qu'il a été prix de Rome en 26, c'est possible ? Non, en 36 alors. En 36, Remondet a repris la succession d'atelier Perret, si je ne m'abuse, aux Beaux-Arts. Il est l'auteur de quelques bâtiments intéressants, cette église de Metz notamment, ce petit bureau de poste sans doute plus dû à Claude Parent qu'à lui-même. Il est l'auteur aussi d'une épouvantable banane plaquée de marbre qui jouxte la maison de la radio sur le quai du président Kennedy. En tout cas, avec Remondet, Gary découvre certaines expériences, certaines pratiques de la composition. Il travaille aussi chez Robert Ouzel, urbaniste, qui a réalisé la très belle cité de la Plaine à Clamart, qui publie régulièrement les planches de l'encyclopédie de l'urbanisme avec Ivan Jankovic. Et chez Ouzel, il élabore quelques projets dont on trouve des traces, je ne désespère pas d'en trouver plus. Voici un des premiers projets, un des projets dessinés chez lui, qui est un projet de grand ensemble dans lequel vous voyez, si on le lit bien, un pattern, une forme assez intéressante de contamination de cette emprise par la verdure et d'alternance de tours et de barres, et avec un traitement paysager de ce qui semble bien être des parkings. Donc une assez grande sensibilité de plan. Gary était un bon compositeur de plans. Il avait appris ça chez Grun. Et je voudrais terminer en évoquant une autre rencontre qui est très importante et qui est au fond la rencontre qui nous a rendus amis Gary et moi, c'est celle d'Anatole Kopp, architecte qui avait été formé à l'école spéciale, puis au MIT et au Black Mountain College pendant la guerre, qui était communiste et qui avait souffert professionnellement, qui avait été interdit professionnel pendant la guerre froide, qui avait réalisé quelques bâtiments comme cet ensemble de Saint-Ouen et surtout publié Ville et Révolution, qui publiera surtout Ville et Révolution en 1967. Gary raconte raconte qu'avec Kopp, il fit partie des quelques milliers de Parisiens qui se rendirent à Orly en avril 1961, comme leur avait demandé Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle, pour empêcher un éventuel débarquement des parachutistes venus d'Alger lors du putsch des généraux. Mais Paris, c'est aussi, et c'est ma dernière image, c'est aussi la découverte de la France, la découverte de Le Corbusier, et notamment de Ronchamp, de ses formes sculpturales qui vont jouer un rôle décisif dans le développement de l'architecture de Gary. Merci.